Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Bonjour et bienvenue dans Fabulari, le podcast dédié à la recherche autour des cultures romaines. Je m'appelle Alex Lachecard et aujourd'hui nous allons parler de Violette le Duc avec Alexandre Antoulin qui est spécialiste de son œuvre. Fin 2023 est sorti chez Gallimard une réédition de Ravage, un roman de Violette le Duc initialement paru en 1955, mais dans une version censurée. Et c'est de cette réédition dont nous voulons parler aujourd'hui, notamment en partant du livre d'Alexandre, tiré de sa thèse et intitulé « Une censure éditoriale, Ravage de Violette le Duc », paru en 2023 aux éditions des presses universitaires de Lyon. Bonjour Alexandre, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ?
Oui, bonjour Alex, merci pour l'invitation. Donc je suis chercheur en littérature française et en histoire du genre. J'ai travaillé plus spécifiquement donc sur Violette le Duc, comme tu le disais, et j'ai étendu mon sujet de recherche sur les autrices dans l'après-guerre, donc 1945 jusque 1970, et en m'intéressant aussi aux questions de censure dans la littérature, et surtout les censures vis-à-vis de la littérature lesbienne, puisqu'il y en a pas mal dans cette période-là, on en reparlera plus tard. Et maintenant je suis éditeur à l'Université de Lille, et je continue la recherche, notamment là le gros projet que je prépare c'est une biographie sur Béatrice Beck, qui était prix Goncourt en 1952.
Et alors donc aujourd'hui on va parler de Violette le Duc, elle est née en 1907, elle est morte en 1972. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de sa vie et du reste de son œuvre avant qu'on aborde le roman Ravage ?
Oui, Violette le Duc, un des éléments importants à prendre en compte, c'est qu'elle est bâtarde. C'est-à-dire que sa mère était domestique dans une famille bourgeoise du côté de Valenciennes et que le fils de famille a une relation sexuelle avec elle. Ce n'est pas clair aujourd'hui si c'était une véritable histoire d'amour ou pas. Berthe le Duc, la mère de Violette, ne s'est jamais trop positionnée là-dessus. Donc, le Duc naît dans ce milieu-là avec une mère qui est célibataire. Elle grandit aussi avec sa grand-mère et dans un milieu extrêmement pauvre. Et elle va être mise au pensionnat lorsque sa mère se remarie et qu'il y a un peu plus de moyens. Elle étudie, mais surtout rencontre son premier amour qui va être Isabelle, un personnage très important dans la construction de sa vie affective et dans le reste de son œuvre, mais de laquelle elle va être séparée lorsque Isabelle va devenir surveillante dans une autre ville et qu'elle-même, en fait, arrête les études et va se mettre en ménage avec une surveillante de ce pensionnat donc à Valenciennes, qui est Denis Sergès, avec qui elle va vivre pendant 8 ans. Elle va avoir des petits métiers, mais sa santé n'est pas assez solide pour vraiment avoir une longue carrière, donc elle est plutôt femme au foyer. Et quand elle s'installe à Paris avec sa compagne, elle va rencontrer dans un cinéma Jacques Mercier, qui va devenir son époux plus tard. Et Violette le Duc est quelqu'un de très difficile à vivre, donc Cécile va en avoir marre, va partir et trouver une autre compagne, et Violette le Duc va avoir pendant un temps ce mariage avec Jacques Mercier. À nouveau, ce n'est pas très probant et elle se sépare de lui. Pendant la guerre, elle va rencontrer dans son travail Maurice Sachs, qui est un écrivain homosexuel qui lui dit qu'elle a beaucoup de talent et qu'elle devrait écrire. Ensemble, ils vont partir de la capitale pour vivre en Normandie afin de vivre du marché noir. Violette le Duc voudra coucher et vivre avec Maurice Sachs. Mais étant donné qu'il est homosexuel, lui n'en a pas envie. Mais un jour, lui dit cette phrase assez heureuse, « Vos malheurs d'enfance commencent de m'emmerder, allez vous mettre le cul au frais sous un pommier et commencez à écrire. » Et Violette le Duc, puisqu'elle est assez obéissante et très disciplinée, accepte de le faire, et c'est là que commence son œuvre. Sauf que Maurice Sachs, comme il ne la supporte plus, il préfère partir au STO, le service travail obligatoire en Allemagne, plutôt que de continuer à vivre avec Violette le Duc. Mais elle continue d'écrire, elle va découvrir l'œuvre de Simone de Beauvoir, être absolument fascinée par l'invité et se dire « Ah, une femme peut écrire d'aussi gros livres !» et elle la stalke dans les cafés, il n'y a pas d'autre mot, jusqu'au jour où elle lui donne le manuscrit de son premier livre, l'asphyxie. Beauvoir le lit, admire énormément son style et décide en fait qu'elle va marrainer Violette le Duc tout au long de son œuvre. Effectivement, c'est ce qu'elle va faire jusqu'à la mort de Violette le Duc, où elle va relire tous les manuscrits, tous les livres. Et cette relation-là va être le premier marrainage de Simone de Beauvoir et qui va permettre la publication de l'Asphyxie chez Gallimard en 1946, puis L'Affamée, qui est le journal de la passion de Violette le Duc pour Simone de Beauvoir, qui paraît en 1948. Ravage, dont on va parler, qui est le roman de formation écrit par Violette le Duc, où elle raconte ses trois grands amours, Isabelle, sa vie avec Denis Sergès et celle avec Jacques Mercier, et qui va connaître la censure éditoriale. Mais même après cet épisode-là, qui emmène Violette le Duc à l'hôpital psychiatrique puisqu'elle fait une décompensation et ça nécessite un internement, Simone de Beauvoir va continuer à l'accompagner, va lui dire poursuivez l'écriture, et Violette le Duc reprend la plume jusqu'au moment où elle frôle le prix Goncourt, mais ne l'a pas, mais elle va avoir cette reconnaissance du public avec La Bâtarde, le premier tome de son autobiographie en 1964, et à partir de là, elle sera indépendante financièrement, et elle va pouvoir continuer cette œuvre autobiographique avec le deuxième tome La Folie en tête en 1970, et le troisième tome de son autobiographie sera posthume, publié par Simone de Beauvoir en 1973. Donc voilà, Violette le Duc, elle a publié une dizaine de livres, quasiment tous autobiographiques, mis à part un ou deux. Et elle va toujours avoir cette reconnaissance de ses pairs, mais cette reconnaissance du public qui sera très tardive, on va dire.
Et du coup, on va parler de la censure de Ravage parce que c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé et qui touche Ravage de façon assez tragique. Mais je voulais d'abord qu'on parle de un peu de Ravage tel qu'on y a accès aujourd'hui. Donc pas dans sa version censurée qui est celle que beaucoup d'entre nous avons lue et c'était la seule à laquelle on avait accès jusqu'à fin 2023. Mais non, on va parler aussi de l'importance de ce roman. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut résumer le ravage auquel on a accès aujourd'hui? C'est quoi qui est hyper différent en fait de ce qu'on a lu avant dans la première version de enfin la version précédente de ravage.
Ce qui est très différent, c'est qu'on accède à Ravage tel que le duc l'avait imaginé, non parce qu'on n'est pas nécromancien et on ne peut pas lui demander si on était sûr de tout, mais grâce à tous les avant-textes manuscrits, dactylographies qui existent, on peut s'approcher le plus de son projet qui était exprimé dans une interview de 1948 au moment de la promotion de L'Affamée où elle disait qu'elle voulait décrire les sensations éprouvées par une femme au moment de la sexualité, d'être au plus proche de cette sensation et de le faire sans fard. Et donc il y a un désir quand même de réalisme et de parler en fait aussi d'un point de vue de concerné sans avoir aucune hiérarchie dans cette grande fresque de sa vie sexo-affective, puisque on a à la fois les premiers émois avec son institutrice, la découverte de l'amour avec Isabelle, celle ensuite avec Cécile et ensuite avec Marc. Et en fait, le duc ne va pas faire une sexualité qui est fantasmée. C'est-à-dire que quand elle découvre avec Isabelle au pensionnat la sexualité, bah il y a des tâtonnements, il y a des hésitations. C'est pas elle se touche, il y a un orgasme. C'est on voit que elle ne savent, enfin du moins le duc ne sait pas faire puisque c'est la première fois qu'elle couche avec quelqu'un. Et le fait de ne pas savoir faire avec quelqu'un, quitte à lui faire mal, se retrouve aussi dans la première scène de sexualité avec Marc, où il lui demande de la branler, et elle, elle sait pas en fait comment on fait avec, avec une bite, voilà, on va le dire. Et donc elle lui fait mal. Mais voilà, et ce désir de d'être au plus proche, de n'épargner aucun détail, à la fois c'est magnifique quand elle découvre l'orgasme avec Isabelle et qu'elle a cette formule de dire je tombais de félicité en félicité, mais c'est aussi extrêmement rude puisque dans tout ce vécu qu'elle raconte donc de ses environ 12 ans jusqu'à la trentaine, On a aussi des moments extrêmement violents, qui sont donc un viol dans un taxi. Et à nouveau, oui, on voit qu'est-ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Et cette violence, elle se retrouve aussi au moment où elle avorte à 5 mois et demi, avortement qui était illégal dans les années 1930 et où elle doit passer par des faiseuses d'anges, mais il y a, voilà, au total, il y a, je crois, 15 tentatives avant que l'avortement soit effectif. Et sans toutes les décrire, elle va expliquer la pose des sondes, la prise des médicaments, tout le malaise qui se déroule quand la fausse couche est en train de se faire. Et c'est ça qu'on redécouvre aujourd'hui. C'est toutes les sensations qu'elle a éprouvées, tout le vécu qu'elle a eu, et surtout un des éléments importants, c'est que un des effets de la censure était que le livre se terminait où elle disait j'étais seule, enfin seule, mais qui sonnait comme une espèce de condamnation de une femme avait voulu vivre sans prendre en compte les normes qu'on lui imposait, et bien fait pour toi, tu finiras seule toute ta vie. Ou la version de Ravage décensurée permet à la fin d'avoir ce discours de ma vie n'a pas été simple, mais pour autant je garde foi en l'avenir et je sais que d'autres moments heureux arriveront. Et ce qui est une exception dans la période 1945-1970 où on n'avait pas de récit donc concerné qui se terminait sur une note positive.
Ouais, et du coup justement, donc le ravage qu'on a lu jusque-là et le ravage auquel on a accès maintenant, c'est vraiment deux versions du coup hyper différentes l'une de l'autre. Et donc en 2023, il y a cette réédition qui est sortie aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Et la directrice de cette collection, Margot Gallimard, elle a appelé ça la version réparée du roman, comme si on rendait justice finalement à Violette Le Duc toutes ces après autant d'années en fait où on a eu droit à une version censurée du roman. Et du coup, dans le livre, on voit clairement ce qui a été rajouté par rapport à la version de 1955. Et ça, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est hyper intéressant, je pense, autant que chercheur qu'en tant que lecteur. Parce qu'en fait, c'est des passages qui sont à l'encre violette. Le reste du texte est en noir de façon assez classique. Et les passages qui avaient été censurés, qui sont remis là, ils sont à l'encre violette. Et du coup, c'est en grande partie grâce à toi qu'on a aujourd'hui accès à la version réparée de Ravage. Et comme tu disais à l'époque, c'est surtout trois sujets qui sont censurés, donc le lesbianisme au pensionnat, les violences sexuelles et l'avortement. Et pour autant, c'est pas complètement non plus absent de la version à laquelle on avait accès avant, mais on est aussi sur une question, et notamment aussi sur une question d'intensité et de style. Et du coup, la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qu'il y a en fait dans ces passages censurés qui ont posé problème à Gallimard à l'époque? Pourquoi est-ce que c'est précisément ces passages-là qui ont été censurés?
Il y avait plusieurs choses, donc d'une part la précision. Sur les questions de l'avortement, il y avait une loi de 1920 qui interdisait de faire la promotion de l'avortement. Donc indiquer la posologie vraiment des médicaments, la température près à laquelle il fallait appeler les secours en cas de problème, ça aurait pu entrer en conflit avec cette loi. Il y avait aussi la loi de censure du 16 juillet 1949, où une commission avait été établie pour contrôler les publications destinées à la jeunesse et à l'adolescence. Sauf que un article avait été inséré qui disait ce n'est pas les publications destinées à ce public-là, mais les publications qui peuvent tomber dans les mains de mineurs, sachant qu'on était mineur jusque 21 ans. Donc en fait, toutes les publications étaient concernées. Et comme il n'y avait pas de manuel de ce qui était autorisé ou pas, les éditeurs étaient très frileux de prendre des risques de publier des livres qui auraient pu contrevenir à cette commission de censure, d'autant plus que quand Ravage il est soumis à Gallimard en 1954, les procès pour épuration pour raison de collaboration après la Deuxième Guerre mondiale sont tout juste en train de se terminer. Et Gallimard a été en prise avec ça puisque la revue de la maison, la Nouvelle Revue française, a été condamnée puisqu'elle avait été dirigée par un collaborationniste, Drieu La Rochelle. Et le sacrifice à faire pour que la maison puisse continuer à exister en 45, c'était de dire on s'abhorre de la revue et la maison d'édition est quelque chose d'entièrement différent. Donc tous ces procès possibles effraient la maison Gallimard, d'autant plus que Violette Le Duc ne vend pas. Certes, elle a une très grande reconnaissance par des auteurs et autrices de l'époque, Simone de Beauvoir, Jean Cocteau, Marcel Jondot, Jean-Paul Sartre, même Jean Genet, mais elle ne vend pas. Et même pendant le processus de publication de Ravage, elle va recevoir des lettres pour dire bon, vos deux premiers livres ne se vendent pas, soit vous pouvez racheter le stock, soit ça part au pilon. Et donc elle répond de manière très dramatique, pilonné, pilonné. Donc ça dérangeait. Et il y avait aussi un élément qui est un peu plus surprenant, c'est que dans les scènes censurées, certes, il y a de la sexualité, de l'avortement, mais il y a aussi beaucoup de scènes de quotidienneté. Avec donc Cécile, c'est le nom qu'elle donne à Denise dans le roman. Et en fait, c'était impossible de représenter juste le fait que deux femmes prennent l'apéro, fassent les boutiques en ville. Enfin, on ne pouvait pas imaginer que, en fait, elles vivaient comme monsieur et madame tout le monde. Et donc, il n'y avait rien d'extraordinaire à ça, et ça, on ne pouvait pas le présenter. Donc, c'est ces éléments-là, plus l'absence de condamnation à la fin, et aussi, j'allais l'oublier, le fait qu'il n'y ait pas de male gaze. La sexualité que présente Violette Le Duc, à nouveau, c'est celle d'une concernée. Ce n'est pas pour plaire à un regard masculin comme ça pouvait être le cas chez Colette. C'est vraiment, on va présenter la sexualité telle que je l'ai vécue, telle que je l'ai éprouvée. Et pas quelque chose pour que les mecs puissent se masturber dessus en lisant. Au contraire, quand on lit la sexualité avec Marc, elle sait pas s'y prendre, ou bien à un moment il y a une scène qui est consentie où, pour éviter de tomber enceinte, elle dit je veux que ça soit une sodomie et on va passer par derrière. Et Marc commence les mouvements de va-et-vient jusqu'au moment où il dit tu me déchires, j'ai mal. Et le duc le présente d'une telle manière où on a l'impression en fait que c'est Marc qui est dépucelé. Puisqu'il y a ça aussi qui est très perturbant chez le duc, c'est que c'est pas noir ou blanc. Elle va à chaque fois briser les frontières du masculin, du féminin, lesbienne, hétéro, même agresseur, agressé, dominant, dominé. Et il y a quelque chose qui est très perturbant quand on lit la scène de viol dans le taxi, où donc c'est un viol par irrhumation, et on pourrait se dire, étant donné que Violette Le Duc, dans cette pratique-là, est receveuse et que Marc est donneur, c'est elle qui est soumise, c'est elle qui subit. Et pourtant, Le Duc, dans son écriture, construit la scène de manière à montrer que c'est elle qui a le pouvoir sur Marc. Et à un moment, elle a cette phrase où elle le regarde pendant qu'il est en train de faire des va-et-vient dans sa bouche, et elle dit je le voyais s'écharper comme un damné, j'avais droit de vie et de mort sur lui, puisque si j'arrêtais, il allait mourir. Donc c'est ça, c'est toute cette écriture, cette législation aussi de l'époque, qui fait que Gallimard décide de censurer.
Et du coup, justement, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à un extrait qui fait partie de ce qui a été censuré, qui a été censuré à l'époque. Et donc, c'est un moment où Thérèse revient par le train chez Cécile, qui l'accueille sur le quai de la gare, et puis elle rentre ensemble chez Cécile. Et donc, du coup, pour les personnes qui vous intéresseraient, vous avez précisément ces pages 223 de la version réparée de Ravage. Et en fait, en gros, peut-être ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'à ce moment-là, elles sont dans une relation à distance. Où la narratrice habite à Paris et Cécile habite dans un village en province, et c'est pour ça que la narratrice prend le train régulièrement aussi pour aller la retrouver. Et je vais lire le passage et après on pourra parler de ce que ça de pourquoi c'est un passage important. Je me souviens de mes arrivées à 6 heures du soir en hiver. Cécile m'attendait. Je sautais sur le quai et dans la nuit je la cherchais comme elle me cherchait de mémoire. On entendait déjà, hors du village, l'essoufflement de la locomotive, plus proche, le choc des gamelles des ouvriers qui revenaient chez eux, qui remettaient leurs musettes sur leurs reins. Nous nous trouvions entre ces hommes silencieux, nous nous disions bonjour d'une voix sourde, nous nous taisions. J'attirais Cécile par les revers de sa jaquette de bure. Ma joue aimait son vêtement plus qu'elle-même. Le chef de gare revenait quelquefois sur ses pas avec sa lanterne. La rose détachée de son mollet nous mettait à l'improviste dans un éclairage de photographe. Ou bien l'un d'entre eux tournait la tête de notre côté, n'éteignait pas son briquet. Cécile me prenait ma mallette. Nous attendions avec les autres. Une frontière glissait dans l'obscurité quand le train repartait, s'annonçait à la nuit devant lui avec son souffle court. Je tournais la tête du côté de la campagne tranchée par les rails, et dans les compartiments, les quelques voyageurs me semblaient valeureux, parce qu'ils poursuivaient le voyage et qu'ils donnaient de leur présence aux arbres, aux plaines auxquelles j'enviais, malgré ces cils retrouvés, leur solitude, leur fidélité au froid, aux ténèbres. Quand je serai en terre, quand ma dépouille en aura fini avec la pourriture, je demande à être parmi d'autres une branche d'arbre en hiver. Une femme descendra peut-être dans le train, serrera la main de celle qu'elle aimera, aura peut-être une échappée de nostalgie vers la campagne dans laquelle je serai du bois noir. Nous traversions la voie. La main au-dessus de la lanterne prenait la moitié de mon billet. Chacun repartait dans sa nuit particulière. Nous taisions jusqu'à la maison, mais si nous rencontrions le désert dans le chemin, nous en profitions. Nous nous arrêtions, nous écoutions sur d'autres routes les craquements du sol gelé sous les souliers, nous attendions l'éloignement du tombereau, des jurons, des coups de fouet. Nous trébuchions parfois sur des crêtes de boue sculptées dans les ornières. Cécile jetait ma valise dans l'herbe sèche, dont le froissement évoquait l'été, le fourrage, les granges. Nous nous embrassions avec angoisse et sauvagerie, la chaleur dans notre bouche nous surprenait. Le froid dans nos cheveux nous faisait une calotte livide, plaquait un bandeau blanc sur notre front si nous renversions la tête. L'herbe grelottait contre nos chevilles. J'ai proposé souvent à Cécile une prise rapide, jouissant à l'avance de ma main transie et cachée de la chaleur, imaginant sans le préciser le tabernacle de l'intimité, jouissant aussi du contraste du médaillon de cheveux à l'abri de la plus rude des saisons. Cécile ne voulait pas. Elle pensait à sa réputation. J'y suis presque parvenue, par ruse et par traîtrise. Je lui ai dit que ma chaussure me blessait, je me suis assise sur un tas de gravier. Elle est venue, elle s'est penchée. Le clair de lune étonnait le passage. Les arbres, prédicateurs menaçants, nous ont vus. On vient à halter Cécile. Alors c'est un passage que tu as choisi, enfin dont on a discuté ensemble, mais que tu as choisi. Et moi je trouve que c'est intéressant parce que je trouve que c'est assez éloigné, mine de rien, du Ravage que moi j'ai lu la première fois que j'ai lu Ravage, donc du Ravage censuré. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dit encore explicitement, mais Violette Le Duc, c'est vraiment une des figures les plus importantes dans la littérature lesbienne en France. Enfin, si on se cantonne à la France en tout cas, et c'est vraiment une des figures majeures à côté d'autres autrices comme Monique Wittig par exemple. On est vraiment sur des figures très importantes dans la littérature lesbienne, et en même temps Ravage censuré, c'est pas non plus le roman le plus lesbien du monde. Et moi à l'époque j'avais été assez étonnée de me dire, mais si Violette Le Duc est censée nous donner nous fournir la littérature lesbienne, qu'est-ce que c'est que Ravage en fait, parce que c'est il y a quand même Marc et cette histoire d'amour hétérosexuel qui est hyper hyper présente. Et quand on lit quand on découvre du coup les passages qui étaient censurés comme celui-là, je trouve qu'on comprend mieux pourquoi peut-être elle est aussi importante dans la littérature lesbienne. Et du coup pour toi qu'est-ce qui peut être le plus important à relever en fait dans cet extrait-là?
Pour moi, c'est le côté de penser aux générations futures. Parce que Le Duc ne s'est jamais définie comme lesbienne, hétérosexuelle ou bisexuelle. En fait, elle posait ses amours lesbiennes ou hétérosexuelles comme un fait, sans même les discuter. Et là, le fait qu'elle pense justement à ces femmes futures, qui est quelque chose qui revient aussi dans Thérèse et Isabelle, où elle dit « il y aura d'autres Thérèse et Isabelle », je trouve que c'est quelque chose qui est important et qui aussi peut faire résonance avec ce que Monique Wittig dit dans Les Guerrières, où quand il y a cette question sur la mémoire, tu dis que ton histoire n'existe pas, alors invente-la, quelque chose à peu près comme ça. Et aussi, c'est la soif de chaleur humaine qu'il y a chez Violette Le Duc. Et voilà, l'affamée, donc ça le disait déjà dans son titre. Et là, la manière qu'elle a un peu de prendre Cécile par surprise pour dire « Si, mais en fait, j'ai quand même envie de coucher avec toi », mais en fait, elle est peut-être plus la sexualité que Cécile elle-même, puisque même elle dit « Voilà, j'aimais plus la robe de bure que Cécile ». Mais c'est tout ça qu'on voit, c'est-à-dire à la fois sa volonté d'aimer Cécile, mais de ne pas vraiment y arriver, le fait de tentait tout de même de la retrouver par la sexualité et le fait de penser aux autres femmes qui viendront après elle, et de se dire, en fait, je ne suis pas la première, je ne suis pas non plus la dernière, je fais partie de toute une suite qui existe, et le duc, on le voit aussi dans Ravage, elle a une très grande connaissance de la littérature lesbienne, parce qu'on va retrouver des codes qui sont présents dès René Vivien avec l'histoire de la violette, mais aussi le miroir, la figure de la pieuvre. Ça, je pense que ça peut venir aussi de ces discussions avec Simone de Beauvoir quand elle préparait le deuxième sexe et qu'elle avait fait ce chapitre sur la lesbienne, qui est très décrié aujourd'hui, mais à l'époque, ça permettait aussi aux femmes de dire ah, ça existe. Et c'est ça qui me plaisait aussi dans ce passage-là. Tous ces moments où elle, voilà, elle pense à l'histoire à laquelle elle appartient.
Et je trouve aussi que c'est un truc qui c'est quelque chose qui m'avait frappé la première fois que j'avais lu Ravage, donc Ravage censuré. C'est aussi la question des espaces. Et je trouve que c'est aussi présent dans cet extrait. C'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans quels espaces. Et que ce qu'elle peut faire dans des espaces publics, entre guillemets, en tout cas hors de la maison, c'est pas la même chose en fonction de si elle est avec un homme ou avec une femme, par exemple. Et du coup, il y a cette idée aussi que peut-être qu'il y a que au sein du foyer que ça peut, qu'une relation lesbienne peut vraiment aussi exister avec moins de contraintes, et en même temps cette envie aussi de se retrouver un peu au milieu de nulle part et d'en profiter pour pouvoir aussi éventuellement coucher avec Cécile, ou en tout cas au moins l'embrasser, etc. Et je trouve que c'est hyper important, parce que c'est quelque chose qu'on a vachement aussi dans la littérature lesbienne, même queer de manière générale, d'être au milieu de la nature et du coup de plus être défini aussi par les normes en fait qu'on nous inculque normalement. Enfin, par exemple, dans la littérature trans, il y a cette question-là aussi de justement de se retrouver dans la nature pour plus être sans cesse ramené uniquement en fait à ça et à la transphobie. Il y a dans un recueil de poésie, par exemple, il y a la phrase Je suis pas trans dans la forêt. Et j'ai l'impression un peu qu'il y a cette forme aussi de liberté, peut-être aussi, dans des passages comme celui-là, mais je sais pas ce que t'en penses.
Si, si, bah, il y a toute une réflexion de où est-ce que, comme tu le disais, peuvent se dérouler les amours lesbiennes. Et que ça, on le voit dans la première partie avec Isabelle, où tant que c'est dans le collège, enfin, collège, lycée, pensionnat, tout se passe bien, l'amour est idéal, et à un moment, elle décide, pour être vraiment tranquille, d'avoir une chambre à elle dans une maison close. Et c'est à partir de ce moment où elle sort de ce tiers-espace, pour reprendre ce que disait Maëlle Maréchal, où là en fait ça ne va plus, parce que la société hétérosexuelle va commencer à pointer du doigt et à dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais malgré tout, Violette Leduc va tenter d'occuper ces espaces. Donc même si c'est un échec, la volonté d'avoir une chambre dans la maison close avec Isabelle, le fait de coucher dans la nature avec Cécile, ou même, donc il y a une autre scène où elle est dans la forêt et elle décide de se masturber dans une maison abandonnée. Donc il y a quand même cette volonté de ne pas être cantonné à un espace clos. Il y a cette volonté de l'être publiquement et aussi par un côté de défi, puisque le duc, au moment où elle était en couple avec Denis Sergès, là il y a des photos, elle avait un look à la garçonne, enfin. Et à partir du moment où elle est avec Marc, elle va avoir un look très femme. Et elle aime beaucoup jouer aussi avec ses codes vestimentaires et de montrer aussi publiquement que oui, elle aime une femme, oui, elle peut aimer un homme. Pour autant, elle va jamais appartenir, alors même si c'était à la toute fin de sa vie, elle va pas du tout se reconnaître dans les mouvements lesbiens parce qu'elle aime pas être enfermée dans une case. Mais elle aime être présente dans l'espace public. Et pouvoir, oui, draguer aussi quand elle dit, bah, là j'ai besoin de chaleur humaine, je vais mettre une jupe courte et aller me balader du côté de Bastille et on va bien voir ce qui se passe. C'est ça aussi. Et ça, elle le faisait avec des hommes, ça on a l'attestation, et si aussi avec Cécile quand elle, justement, quand elle faisait leurs courses ensemble ou qu'elle déménageait.
Alors, il y avait deux questions que je voulais te poser encore, mais on va bientôt arriver à la fin. Du coup, je voulais qu'on parle de la façon dont tu avais travaillé Comment tu t'es plongé dans les manuscrits de Viollet-le-Duc pour reconstituer le texte auquel on a accès aujourd'hui? Comment on fait en fait pour savoir que c'est à ça que l'autrice aurait voulu que le roman non censuré ressemble? Mais c'est un gros sujet, donc on gardera ça peut-être pour une autre fois. Et du coup, pour finir, je voulais plus qu'on ouvre aussi sur une autre génération d'autrices et d'autrices de littérature lesbienne. Parce que donc dans la version réparée de Ravage, on a au début une préface qui est absolument magnifique d'une autrice, d'une romancière qui s'appelle Mathilde Forget, qui est lesbienne, et qui a publié deux romans, À la demande d'un tiers et De mon plein gré. Et moi, son texte, je l'ai lu comme une déclaration d'amour, en fait, d'une autrice à une autre. C'est un texte qui est vraiment très très puissant. Et je me demandais, en fait, à ton avis, qu'est-ce que ça nous dit, cette préface-là, de l'héritage de Viollet-le-Duc chez les auteuristes de littérature lesbienne contemporaine en France en ce moment?
Oui, bah, le texte de Mathilde, à chaque fois que je le lis, je braie parce que en moins de 10 pages, elle comprend l'intention de Viollet-le-Duc, réussit à la retranscrire. Et pour moi, en fait, bon, j'ai fait ma thèse, c'est une chose. Si vous n'avez pas envie de vous farcir 500 pages, lisez la préface de Mathilde Forget et elle réussit aussi à exprimer tout ce que j'ai dit en autant de pages. Et dans la littérature récente, il y a deux aspects qui vont être pris de Viollet-le-Duc. Il y a l'aspect de celle qui a résisté face à la censure, qui était présent par exemple chez Virginie Despentes avec King Kong Theory en 2006, qui va être présentée aussi là plus du côté de la figure de l'amoureuse chez Annie Ernaux avec Mémoire de fille. Et ce qu'on voit dans la jeune génération, c'est plutôt la manière d'écrire la sexualité. Et là, je pense notamment à Monde plus sale que moi de Capucine Delattre, où Viollet-le-Duc n'est jamais nommée, mais on a une écriture à la Viollet-le-Duc. Et elle m'expliquait que c'était l'une de ses autrices favorites. Et donc, on voit cette influence-là. Il y a aussi la figure au final de Thérèse et Isabelle, qui déjà, dès l'apparition indépendante de l'épisode en 1966, s'est changée entre lesbiennes, en signe de reconnaissance, en signe de séduction aussi. Et ça, on le voit très bien dans Colza de Albélac, où il explique, je crois que c'est une de ses amantes qui lui offre Thérèse et Isabelle et qui lui dit il faut le lire. Et tout le livre, enfin une partie du livre où il parle de Thérèse et Isabelle, est consacrée au fait de dire qu'il n'a jamais lu ce livre. Et il sait qu'il existe et tout, mais c'est vraiment ce signe de reconnaissance de drague dans le milieu lesbien. Et pareil, ça revient aussi de Alban Ligné, dans J'ai des idées pour détruire ton ego, où je crois que c'est une de ses amantes qui lui offre l'affamée, quelque chose comme ça. Et donc il y a cette revendication chez les jeunes générations, et aussi d'être une autrice qui ne vient pas d'un milieu qui ne vient pas d'un milieu qui devait naturellement entrer en littérature. Et ça, je pense à Fiévreuse plébéienne d'Élodie Petit, où elle écrit un manifeste de la langue bâtarde qui fait un peu écho à la bâtarde de Viollet-le-Duc. Et on voit justement le côté de ne pas être propre, présentable, mais vraiment d'être irrévérencieux et de dire, moi, c'est ça ma littérature et je ne vais pas faire en sorte de coller à vos canons, je vais créer mon propre canon, et si ça ne vous plaît pas, si c'est vu comme de la littérature de bas étage, tant pis, en tout cas c'est la mienne. Et c'est cette image-là de l'Éduc qui commence à infuser dans la jeune génération.
Merci, je trouve que c'est une manière fantastique de conclure sur la jeune génération et tout ce qu'elle écrit en ce moment. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de parler de Viollet-le-Duc aujourd'hui. On sait, toi comme moi, qu'on aurait pu continuer pendant longtemps à en parler. Mais merci beaucoup et j'espère que ça aura donné envie de lire l'édition augmentée et réparée de Ravage et éventuellement de lire ta thèse aussi tant qu'à faire. Voilà, merci beaucoup d'être venu parler de Viollet-le-Duc avec moi aujourd'hui.
Et merci beaucoup pour l'invitation.